This is one device.
My worst fears are that we cause significant harm to the world.
3, 2, 1.
Bonjour, c'est Frédéric Filloux, bienvenue dans Contrôle F, le podcast de l'Express qui explore le monde de la tech et son impact sur nos sociétés. La principale menace sur le développement des intelligences artificielles comme ChatGPT est incontestablement la question des droits d'auteur et la protection des œuvres, ce qu'on appelle le copyright. L'année prochaine va voir aux États-Unis une avalanche de procès où l'unité de compte sera la centaine de millions de dollars, voire le milliard, dès lors que l'action sera collective. Une noria de cabinets d'avocats à New York et à Washington sont dans les starting blocks pour que les grands médias d'information, mais aussi les éditeurs de livres, les producteurs de musique, les groupes audiovisuels, les studios de Hollywood, obtiennent leur dû auprès des grands opérateurs d'IA, que ce soit les GAFAM ou d'autres. Pour en parler, j'ai invité dans Contrôle F une avocate spécialisée du numérique qui connaît remarquablement bien ces sujets. Avec Tema Saman, nous allons tenter de voir si les IA génératives pillent vraiment la connaissance universelle et comment ceux qui la produisent peuvent s'en protéger. Bonjour Tema.
Bonjour Frédéric.
On va commencer par un exemple simple. Sur Midjourney, je génère une image montrant l'intérieur du Bataclan tout de suite après l'attaque de novembre 2015. L'image est d'excellente qualité, mais elle est totalement synthétique, sauf qu'elle a été générée à partir d'une photo réelle, qui est d'ailleurs parue dans la presse. La question est simple. Le photographe, dont le travail a de toute évidence servi à entraîner le modèle d'intelligence générative de Midjourney, est-ce qu'il est fondé à demander des droits d'auteur à la firme d'IA?
Alors, la question est simple, la réponse ne va pas forcément l'être.
Ça, je m'en doute.
A priori, oui. Sauf qu'aujourd'hui, dans les textes sur l'intelligence artificielle, on utilise les éléments de la directive copyright adoptée par l'Union européenne sur ce qu'on appelle le TDM, qui est un nom un peu savant pour dire qu'on a le droit de fouiller pour avoir des sources.
Ouais.
Mais ceci étant dit, donc la réponse est oui, puisque le photographe peut décider que l'intelligence artificielle n'a pas le droit d'utiliser son œuvre qui est protégée par le droit d'auteur.
D'accord.
Autrement dit, il a le droit de faire un opt-out pour dire « vous n'avez pas le droit d'utiliser ».
Oui, mais l'opt-out, il va le faire. L'opt-out, il ne peut pas le faire a posteriori. Il ne peut pas dire à une intelligence artificielle « attendez, vous retirez toutes les images de votre modèle, c'est techniquement pas possible ». Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve le fait que quand on parle à des professionnels des grands modèles de langage, ce qu'on appelle les LLM, tous disent que toute traçabilité est absolument impossible. Donc on a un petit souci là.
On a un souci. Alors, ceci dit, dans mon métier et dans le tien, ce que te dit quelqu'un sur ce qui n'est pas possible n'est pas forcément vrai.
Oui, et puis ça peut varier, et ça va varier en l'occurrence.
Et puis, quand ils n'ont pas le choix, on peut trouver des solutions.
Ils vont trouver des solutions.
Il faut respecter ce qu'ils disent. La technologie est compliquée. L'intelligence artificielle apporte suffisamment d'éléments. Et d'ailleurs, plutôt que de regarder tout ce qui ne va pas avec l'intelligence artificielle, il faut toujours commencer par dire tout ce qu'elle peut apporter et la manière dont on peut s'en servir.
Oui, d'accord.
Elle pose un certain nombre de problèmes dans le cadre juridique, politique, social, économique, tel qu'il existe aujourd'hui. C'est le principe de ce qu'est une technologie dite disruptive.
Oui.
Si elle ne bouge rien autour, c'est comme le jeu de Mikado. Hein. Si le jeu de Mikado ne bouge pas les aiguilles, il n'y a pas de jeu de Mikado.
C'est une bonne image.
Ça n'apporte rien.
Je te la piquerai. Tout à fait.
Donc, le principe en la matière, c'est que ça vient modifier des règles qui existent depuis longtemps. Hein. Les règles de propriété intellectuelle sont des règles du 19e siècle qui ont évolué au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure de la géostratégie d'ailleurs, du développement industriel, des nouveaux acteurs. Quand on s'est rencontrés, on était au milieu de ça avec l'émergence de l'Internet à la fin des années 90 et on voyait bien qu'on avait un certain nombre de problèmes qu'il fallait traiter de manière différente. Ça ne voulait pas dire que le comportement humain avait changé. Ça voulait simplement dire que les technologies apportaient une ampleur ou une capacité qui était différente. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, elle est basée sur quoi ? Elle est basée sur des puissances de calcul et des algorithmes extrêmement intelligents. qui vont pouvoir faire du prédictif, faire des éléments de langage, de texte, d'image, de son.
Et de vidéos, etc. Oui, bien sûr.
Qui viennent modifier en rupture avec un principe de protection de ceux qui l'ont.
On est d'accord. Je vais simplement apporter un petit correctif, voire un petit complément à ce que tu dis. C'est que avant l'algorithme, il y a la donnée. Et la donnée, elle vient bien de quelque part. Et la donnée, elle vient d'entités, de gens, d'entreprises, notamment ici, on est à l'Express, et on a peut-être des millions d'articles en archive depuis 1953. Je veux dire, des hommes et des femmes ont produit ce matériel, il a une valeur. Aujourd'hui, il est totalement aspiré par ces grands modèles de langage et par ces intelligences artificielles. Est-ce qu'il est pour toi légitime que des entités comme l'Express, le New York Times, Le Monde, l'AFP, Reuters, viennent demander leur dû?
Alors, ma réponse est plutôt oui. Il est normal qu'ils viennent demander leur dû. La question, c'est comment et comment on l'évalue.
Voilà, exactement. C'est deux questions absolument fondamentales.
Donc, l'Express pourrait aussi décider de faire un opt-out pour qu'on ne vienne pas à aspirer ces données.
Sauf que c'est trop tard.
Ben non,
vous pouvez faire maintenant. Ah mais si, c'est totalement trop tard. Je peux demain te faire la démonstration que les articles de l'Express sont aujourd'hui intégrés dans ChatGPT et dans Bard, le LLM de Google. C'est pareil pour le New York Times, c'est pareil pour tout le fonds d'archives photographiques, par exemple, de l'agence France Presse, où toutes les IA sont d'ores et déjà nourries de ces trucs. Donc, on a un passif que la notion de opt-out, qui, encore une fois, consiste à mettre, je le dis pour nos éditeurs, un petit morceau de code sur les sites Internet, de façon à ce que les robots des IA n'aspirent pas à ces données, c'est bien pour tout ce qu'on va produire à partir de maintenant, mais je dirais, le mal est fait.
Alors, à nouveau, hein, je me base sur des négociations qui ont eu lieu entre la presse et les plateformes sur il va falloir engager un dialogue pour regarder comment on peut partager la valeur que les bénéficiaires de l'IA devront à ceux qui ont produit des données qu'ils utilisent tous les jours. Je ne vais pas me positionner sur le sujet, mais comme ça a été fait sur les utilisations des citations de presse ou des presses distribuées par les plateformes, c'est un sujet qui doit faire l'objet d'une négociation. Et toute la complexité du sujet est d'ailleurs que ces discussions ont lieu partout. Mais ce que je veux dire, c'est que chacun doit trouver avec son modèle et son système pour qu'on arrive à l'équilibre. Et si je peux me permettre de revenir un peu sur l'historique, parce qu'il faut toujours savoir d'où on vient pour comprendre où on est, la question du partage de la propriété intellectuelle et du droit d'auteur a toujours été un débat politique entre des États et entre des acteurs. Hein. Les premiers promoteurs de la propriété intellectuelle et du droit d'auteur ont été les Européens. Qui sont venus se la faire contester par les Américains, parce qu'ils n'en produisaient pas, ils ne produisaient pas de propriété intellectuelle. Donc, ils n'avaient pas du tout envie de la payer, ils venaient la bouffer aux Européens. Puis, c'est les Américains qui ont été les premiers défenseurs de leur propriété intellectuelle qu'ils ont commencé à produire, parce qu'ils se les faisaient piller par les Asiatiques. Les Asiatiques, en tout cas une partie de l'Asie, notamment le Japon, a commencé à en produire beaucoup. On ne parle pas forcément de droits d'auteur, on peut parler aussi de brevets. Et ils ont commencé à dire, attendez, moi, je vais rentrer dans l'OMPI pour qu'on me paye la valeur que j'ai produite. Et puis, on a des systèmes qui sont, notamment, je reviens sur le droit d'auteur, différents entre les différents acteurs. Dans les différents acteurs de la production du droit d'auteur, par exemple, on va trouver le créateur du contenu, le distributeur ou l'organisateur du contenu, sur les œuvres collectives, et l'utilisateur. Les États-Unis aujourd'hui, par exemple, vont privilégier, c'est le mode du copyright, c'est la brevetabilité, y compris des logiciels, va privilégier le producteur et le distributeur. La position française et d'une partie de l'Europe, c'est de protéger l'auteur. Ce que je veux dire, c'est que cette bataille, cette crispation, elle a toujours eu lieu et elle était liée à la période dans laquelle elle se positionnait. Donc, nous sommes dans la période des grands modèles de langage, dans lequel la manière dont on a fonctionné jusqu'à présent ne répond pas à la problématique qui est posée de la distribution de la valeur qui est créée par différents acteurs.
On va revenir à la question des médias au sens large du terme, que ce soit les médias d'actualité ou l'entertainment. Aujourd'hui, selon toi, quelle devrait être la stratégie des grands médias d'information qui détiennent ces fonds éditoriaux, qu'il s'agisse de textes, de photographies, de vidéos? Est-ce qu'ils devraient s'en protéger pour une raison très simple. C'est que là encore, on va prendre un exemple d'actualité. Aujourd'hui, si je veux générer une image représentant une petite vieille à Bakhmout dans les décombres de la ville aidée par un soldat ukrainien, je vais avoir une image incroyablement fidèle, qui va ressembler à une photo qui va être quasi parfaite et quasi exploitable. On sait que cette photo, elle est issue des dizaines de photoreporters qui, au risque de leur vie d'ailleurs, prennent ces photos. Est-ce que l'agence France Presse, Associated Press, Reuters, Bloomberg devraient se protéger contre ça, sachant que si maintenant on se place du point de vue de l'utilisateur, le rédacteur qui va avoir illustré un article sur l'Ukraine, s'il a le choix entre une image gratuite de Midjourney et une image qui vaut 150 euros fournie par l'AFP, eh ben le choix va être vite fait. Donc, il y a quand même un méga préjudice pour le détenteur, le créateur de l'information originale. Comment on s'en sort ?
D'abord, la première chose, le premier sujet, c'est il faut dire la vérité au lecteur. Il faut exiger exact. Que quand c'est un photomontage, une illustration, c'est comme une illustration. Et donc, du coup, il faut dire que ça n'est pas une photo réelle.
D'accord, ça, ce sera dans la loi, ça, déjà.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est si la problématique de la circulation des œuvres, c'est qu'on a le droit de s'en inspirer. Donc, est-ce que l'intelligence artificielle modifie ce droit de citation, ce droit d'aller s'inspirer, de comprendre par une intelligence qui n'est pas une intelligence humaine, parce que ça coûte moins cher, mais que c'est quand même basé sur le travail des autres. À nouveau, c'est toute la problématique que pose le numérique. Ça ne change pas le comportement humain. Tu as simplement un comportement dont l'ampleur et les conséquences vont changer les éléments de la création de valeur. Donc, est-ce que il y a une obligation, est-ce qu'on crée une obligation de citation de la référence? Est-ce que les références, du coup, doivent être rémunérées? Est-ce qu'on doit chercher d'autres modèles de rémunération? Ce sont des questions qui doivent, auxquelles je ne veux pas répondre.
Je suis d'accord.
Mais dommage. Ne serait-ce que parce que je vais me fâcher avec
la terre entière.
On va éviter. Mais ce sont des questions qui sont posées et qu'il va falloir régler. Il faut que la société décide.
D'accord. Ce sera en partie dans la loi.
Dans quelle loi? Tu parles de la loi, mais de quelle loi?
Alors,
la loi. La loi copyright, elle est passée et il n'y a pas de disposition propriété intellectuelle dans l'AI Act. Hein,
quand, quand on entend Thierry Breton, il a l'intention de mettre ce genre de choses. Je me trompe ?
Moi, les dernières nouvelles que j'ai, c'est qu'ils ne veulent surtout pas réouvrir la directive copyright et que dans l'acte pour l'intelligence artificielle qui est en discussion au sein de l'Union européenne, il n'y a pas d'élément droit d'auteur, il n'y a pas d'élément propriété intellectuelle pour une raison politique qui est qu'ils essayent d'avoir un accord avant la fin de la mandature qui finit en avril 2024, et que si on y met les questions de droit d'auteur, on en a pour des mois, donc ça ne serait pas traité là-dedans.
Donc on va avoir un système quand même assez bizarre, où de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, on va avoir une flopée d'actions en justice menées par des entités privées détentrices de tous ces fonds éditoriaux et supportées par des bataillons d'avocats, qui vont attaquer les opérateurs d'intelligence artificielle, et en Europe, on va être dans cette espèce de vide.
Mais pas du tout. On peut très bien faire exactement comme les Américains. Et moi,
c'est pas trop la culture, hein, quand même.
Alors, ce que je dis aujourd'hui, c'est il y a un débat sur le droit d'auteur et la propriété intellectuelle en général par rapport à l'intelligence artificielle.
Ouais.
Rien n'empêche d'aller demander à un juge de prendre une position avant ou en dehors de la précision d'une loi. On a un corpus.
Ouais.
Que la jurisprudence s'adapte à une situation qui est nouvelle. Sur la question du photographe qui n'a pas fait d'opt-out et qui et dont on voit que dont la photo s'est inspirée, est-ce que le juge se positionne? Et là, ça demandera aux avocats beaucoup de créativité pour aller peut-être chercher, en dehors du droit de la propriété intellectuelle, en dehors du droit d'auteur, des éléments, par exemple, de concurrence parasitaire ou...
Exactement.
Il y a toute une série
On est quand même un peu dans le parasitisme.
Sur le juge le décidera. Mais on peut
Attends,
utiliser...
Moi, je ne suis pas juge, je ne suis pas avocat, mais par contre, et dans des vies passées, j'étais opérateur de médias. Donc, je peux te dire qu'il y a un sacré parasitisme, puisqu'encore une fois, l'utilisateur final, c'est-à-dire l'éditeur, enfin le producteur, le rédacteur sur un site internet, par exemple, entre une image gratuite et une image qui vaudra 200 dollars, eh ben, il prendra fatalement l'image gratuite. Donc, s'il n'y a pas un préjudice mesurable, multiple, voire très important...
Mais alors, je ne suis pas juge, Ouais. Tu es une partie au procès.
Ouais.
Tu considères que c'est de la concurrence parasitaire.
Oui, c'est parasitisme.
On va, là, on est hors dossier, donc
oui,
d'autres
sûr,
éléments
oui.
de droit qui permettent, d'autres bases légales qui te permettent de dire il y a quand même un problème, le juge le déterminera tant qu'il n'y a pas de loi qui viendront préciser. On peut faire exactement comme les Américains. Les Américains n'ont pas plus de base légale que les Européens. Ils ont juste décidé d'aller à la cogne. Ils peuvent perdre. Hein. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, s'ils perdent, ils perdent gravement, parce que c'est fini. Ça prendra des années.
Il y aura une jurisprudence qui aura une espèce d'effet à long terme sur tout ça.
Ma réflexion, si je devais faire un pari... et pour connaître quelques stratégies juridiques assez efficaces, je pense que personne n'a envie d'aller jusqu'au bout du procès, parce que quelles que soient les parties, celui qui perd, il perd complètement.
Ah bah il y aura, comme on dit dans ton métier, un settlement out of court, c'est-à-dire un accord entre les parties en dehors du tribunal.
Il peut y avoir, devant le tribunal ou en dehors du tribunal, les négociations sur le partage de la valeur des différents acteurs, tu as deux choix. Soit tu es sûr de toi, tu vas jusqu'au bout du procès et tu dis « je remporte la mise ». Soit tu prends un risque que soit tu gagnes tout, soit tu perds tout. Et dans ces cas-là, les gens s'assiedent en face de la table, on dit maintenant comment on répartit la valeur aujourd'hui sur tous ces éléments-là. Et en ce qui concerne l'Europe, je rappelle qu'il y a eu un certain nombre de procédures devant le Conseil de la concurrence, justement sur l'utilisation des contenus de la presse vis-à-vis des grandes plateformes.
Donc on a quand même une base légale.
Okay. Bien sûr qu'on a une base légale. Donc est-ce qu'on a besoin d'un texte pour changer les définitions du droit d'auteur, hein, puisque on a un juge américain, on a de la CJCE, donc la Cour de justice européenne, qui ont décidé qu'il fallait une intervention humaine pour être protégé par le droit d'auteur.
Oui. Moi, j'ai une question pratique. J'ai été étonné de voir que Microsoft s'engage à protéger les entités et personnes qui seraient attaquées en justice à cause de l'utilisation qu'ils font de leurs produits d'IA. Qu'est-ce que ça t'inspire ?
Ah, je suis pas du tout étonnée.
Ah oui, moi ça m'a sidéré. Ok, là, je suis naïf.
Je te disais que j'avais fait une présentation devant une organisation professionnelle à Washington la semaine dernière sur l'IA et les problématiques qui étaient posées, que j'avais appelée « Est-ce que l'IA Act sera le nouveau RGPD ?»
D'accord, la
réglementation
pour
la protection
données.
Des données personnelles, qui avait fait l'objet de beaucoup de débats et qui avait imposer au reste du monde la manière dont l'Europe approche la protection des données personnelles, qui serait d'ailleurs sans doute à challenger maintenant qu'on a un petit peu de recul sur est-ce qu'elle permet le développement des technologies ou est-ce qu'elle est en frein, mais ce n'est pas le sujet, je peux revenir pour en parler. On va avoir des obligations réglementaires avec des éléments de responsabilité. Ce que je n'ai peut-être pas cité, c'est qu'au-delà de l'acte pour l'intelligence artificielle, on a d'autres textes qui vont venir interférer sur l'encadrement de l'intelligence artificielle. On a cité la directive copyright, on vient de citer le RGPD. On a deux autres textes en cours qui sont la directive pour les produits défectueux.
Ah oui.
Et oui.
D'accord.
Et la directive de la responsabilité des acteurs sur l'intelligence artificielle. Donc la problématique de la responsabilité, elle ne va pas être traitée dans l'acte pour l'intelligence artificielle, mais dans un autre texte. Et les textes sur la responsabilité de l'intelligence artificielle identifient deux responsables. Le programmateur, donc ChatGPT, Microsoft, et l'utilisateur. L'utilisateur, qui vont être les clients, comment ces entreprises vont faire de l'argent avec l'intelligence artificielle. Ouais, les grands modèles de langage, c'est bien des outils au service des entreprises pour faciliter, améliorer, baisser les coûts d'un certain nombre de fonctions pour aller plus vite et aller plus loin. Donc, leurs clients vont être des entreprises, ce qu'on appelle des utilisateurs. Je vais acheter à Microsoft, à Google, à d'autres, à Mistral. Je vais acheter des systèmes qui vont m'aider dans mon business de finance, de je sais pas quoi. Et ben, comme pour le RGPD, les entreprises les plus malines garantissaient un certain nombre d'éléments de respect du texte de manière à ce que les technologies soient adoptées. En fait, c'est une manière de dire « achetez-moi, vous courez aucun risque, puisque
c'est un argument commercial.
Les risques juridiques que vous couvrez. » C'est malin. Hein.
Je suis d'accord.
Et beaucoup de grands acteurs ont fait ça. Hein.
C'est plutôt malin. Est-ce que ça ne va pas consacrer la domination des très grands acteurs, genre les GAFAM ? Si aujourd'hui, j'achète un LLM, un modèle de langage, pour faire des fonctions précises chez un développeur à côté qui a trois petits génies des data science, que j'ai un problème légal, lui me garantit rien. Alors que si j'achète chez Microsoft, j'ai une garantie. Question, mon intérêt va être de facto d'aller chez Microsoft, dont la domination sur ce business va se trouver renforcée.
Les entreprises se battent avec les armes qu'elles ont. Et donc, oui, regarde là, à nouveau, je vais faire une digression et une analogie, mais dans la loi qui arrive au Parlement français, là, qui arrive à l'Assemblée nationale, la loi SREN, la loi pour la sécurité de l'économie numérique, tu as des dispositions sur le cloud qui limitent la capacité des entreprises de pouvoir financer l'achat de leurs outils par leurs utilisateurs, par leurs clients. Justement pour éviter une logique de domination, tu m'achètes, en fait, je te prête les fonds pour pouvoir m'acheter. Ce qui est une pratique, je vois que t'es comme la poule qui a trouvé la clé, là. Donc, tu vois, oui, tu as une puissance de
feu. C'est pas ça, c'est que je suis pas d'accord avec toi. Enfin, je veux dire, tu réponds pas à la question.
Je te réponds à la question que c'était une pratique qui vient de ta puissance pour faire une offre à tes clients qui sont plus intéressantes que par des entreprises plus petites.
Donc tu consacres le fait que ça renforce les gros.
Où tu as une disposition aujourd'hui légale française qui limite ta capacité de faire ça. Qui limite ta capacité à prêter l'argent, tu vois. Donc, tu peux avoir d'autres outils. D'abord, les gros, il faut quand même reconnaître que les gros, ils sont quand même très en avance d'un point de vue technologique.
Ça, ils sont très forts, ouais.
Et puis, ce que je veux te dire, c'est que tu as d'autres outils. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, toujours sur les acteurs du cloud, tu ne l'as peut-être pas vu, mais tu as une obligation de cloud de sécurité, des raisons de souveraineté, qui oblige des grands acteurs non français à avoir des joint ventures avec des acteurs français.
D'accord.
Donc, ce que je veux dire, c'est que tu peux avoir... Après, tu as un troisième outil qui s'appelle le droit de la concurrence et qui s'appelle l'abus de position dominante. Donc, ces grands acteurs...
D'accord, il y a quand même un arsenal. Là aussi, il y a un arsenal juridique qui ne demande qu'à être utilisé pour...
Il faudra réfléchir. Mais si tu discutes avec des boîtes françaises, on voit que, d'ailleurs, c'est plutôt encourageant, on a un certain nombre de pépites qui sont soit en utilisateur, soit en programmateur, qui arrivent, et moi j'ai toujours pensé depuis que je fais du numérique, que les Français, comme on est en retard et qu'on n'a pas les mêmes sommes en recherche et développement, il faut utiliser ce que les autres ont fait bien pour lequel ils ont payé.
Oui.
Et c'est ce qu'on voit arriver en intelligence artificielle où on a un certain nombre d'utilisateurs qui savent utiliser les technologies des autres ou qui savent être dans des secteurs plus spécifiques sur lesquels ils ont des développements plus spécifiques parce qu'ils ne peuvent pas concurrencer les gros. Donc il faut arriver... Alors, si je peux me permettre...
Vas-y.
Ce que je n'aime pas, c'est le côté « les autres sont méchants, oh là là, et on n'y arrive pas parce que les autres, ils sont plus gros, plus machin, etc. » Mais ce que je veux dire, c'est il y a des outils pour pouvoir trouver sa part du gâteau.
Oui.
Au lieu de se plaindre, utilisons les atouts et les outils que l'on a et n'essayons pas de jouer sa part de marché en faisant pleurer Margot, gouvernement français, dans la chaumière, mais plutôt en ayant des technologies qui sont tellement performantes qu'on a envie de les acheter. Pour ça, ça ne peut pas être one stack all, en fait. En réalité, c'est toujours des partenariats.
Oui.
Tout le monde est dépendant.
Il faut choisir une très forte interdépendance.
Il faut choisir ta dépendance, trouver les bons partenariats, se débrouiller pour que ma dépendance soit limitée par ma capacité à mettre pression sur mon partenaire parce que je peux aller en chercher un autre. C'est tout un jeu que les acteurs économiques du monde réel du XXe siècle connaissent très, très bien. Il faut les utiliser pour le numérique et arrêter de chouiner.
OK, donc on va arrêter de chouiner. Juste une question pratique. Dans ton cabinet, quelle est aujourd'hui la proportion d'avocats ou de puissance intellectuelle de ton équipe qui est assignée sur des questions d'intelligence artificielle?
Alors, ça doit être aujourd'hui autour de 60%.
C'est énorme.
Mais pour une raison très simple, c'est qu'on a des clients pure player numériques et ils viennent tous sur l'IA depuis un an, 18 mois. Nos clients qui sont dans d'autres secteurs s'intéressent aussi à l'IA.
Bien sûr.
Depuis le printemps, on a beaucoup de nouveaux clients qui sont pour certaines d'entre elles d'ailleurs des jolies pépites
françaises bien sûr.
Et qui ont besoin parce que à la question du développement de l'IA, il y a une problématique là, réglementaire. Aujourd'hui, le fonctionnement réglementaire français en dehors d'une législation spécifique, elle est très, très, très contraignante, avec en face des régulateurs qui ne sont pas rassurés et dont la logique est plutôt de dire non plutôt que dire comment. Là, au lieu d'être sur la logique comment, ils sont encore en train de discuter le si, qui est d'ailleurs en complète contradiction avec le discours politique qui veut faire de la France un des fers de lance de l'intelligence artificielle en Europe et dans le monde, ce pourquoi on a d'ailleurs les moyens. Donc, ça serait bien de réfléchir un peu au comment plutôt que d'arrêter de discuter le si.
Très bien. Merci Thémas Saman. Merci beaucoup.
Merci Frédéric et à bientôt, j'espère.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Contrôle F, le podcast de l'Express qui explore le monde de la tech et son impact sur nos sociétés. Retrouvez-nous tous les mercredis sur le site de l'Express et sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast et autres. N'hésitez pas à nous donner votre avis avec étoiles et commentaires ou en nous écrivant à l'adresse suivante, contrôle F@l'express.fr. Cet épisode a été réalisé par Jules Cros. À bientôt.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.